décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques. Semaine 41, salut Manu.
Salut Mag.
Salut Luc.
Tu nous as fait une grosse revue de presse cette semaine.
Ah oui, gigantesque.
Basta, Mastodon, Diaspora, Peertube, des alternatives libres face aux géants du net et à leur monde orwellien, par Alexis Moreau et Rachel Knebel.
Ce n'est pas la première fois qu'on voit ce genre d'article, mais ça fait toujours plaisir. On met en avant la décentralisation, l'utilisation d'outils libres qui se mettent en concurrence aux outils centralisés et propriétaires, et ce sont souvent des outils qui sont portés par Framasoft.
Le monde informatique, les codes sources des logiciels du secteur public, publié par Dominique Philippone.
Donc ça parle d'une administration, Etalab, donc des gens très sympathiques parce qu'ils le poussent pour que les administrations publient un petit peu tout ce qu'elles font. On aime beaucoup, il y a plein de choses qui sont sorties grâce à eux, les impôts par exemple, ou des algorithmes pour les choix sur les filières éducatives. Donc,
Parcoursup.
Ouais, exactement.
Cryptonautes, l'UNICEF lance un cryptofonds pour financer des technologies open source Cryptonautes, par Vivien Coronel.
Une sorte d'initiative bizarre, je trouve, parce qu'effectivement, utiliser des monnaies décentralisées, chiffrées, genre Bitcoin, pourquoi pas, les utiliser pour financer et en faire des fonds. Mais là, c'est l'UNICEF qui propose et qui met ça en avant, ça fait quand même un peu étrange. Mais bon.
Les échos, intelligence artificielle, peut-on se passer des GAFAM, par Jean-Luc Marini.
Le sujet est assez étrange, parce qu'effectivement, les GAFAM, l'intelligence artificielle, on peut voir des relations, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts, beaucoup de chercheurs, de scientifiques, d'ingénieurs qui bossent à faire de l'intelligence artificielle. En tout cas, ce qu'on en voit aujourd'hui, ce qui est en gros des statistiques très avancées, comme ça que je le vois. Mais il y a cette optique qui dit, voilà, on a plein de choses pour faire des intelligences artificielles, mais on a surtout les GAFAM. C'est eux qui sont en pointe, c'est eux qui le mettent en avant, c'est eux qui travaillent le plus. Et ils le mettent à notre disposition, par exemple, sous la forme de boîtiers vocaux accessibles chez nous, revendiquent ça comme étant de l'intelligence artificielle.
Ouais, il y a quand même des logiciels d'intelligence artificielle, notamment de Google ou de
TensorFlow,
voilà,
ça s'appelle.
Qu'on peut télécharger, qui sont licences libres.
Qui sont libres pour l'essentiel, mais, et c'est là-dessus que l'article n'est pas mauvais, ils font bien remarquer que certes c'est libre, mais derrière la force de frappe et la force de travail, c'est avant tout les GAFAM. Donc il faut quand même se méfier un petit peu de ce qui se passe là-dedans.
ZDNet France, Linus Torvald n'a pas peur de Microsoft, par Steven J. Vaughan Nichols.
Pas nouveau comme sujet, Microsoft aime le libre, officiellement.
Oui.
Alors, ils incluent même un noyau Linux dans leur système d'exploitation depuis assez peu de temps. Ça inquiète pas mal de gens, mais ça inquiète pas les gens qui font le noyau Linux. Eux, en gros, ils sont plutôt contents. Ça leur fait bizarre, je pense, ils le disent, de voir Microsoft débarquer chez eux. Mais en même temps, ils n'ont pas peur parce qu'ils se sentent protégés par la GPL, qui est la licence qui couvre le code, et fait en sorte que Microsoft n'est qu'un acteur, une entreprise parmi d'autres qui contribue au noyau. Et effectivement, ça en inquiète certains, mais pas eux en tout cas, ils sont confiants.
Banque des territoires, la feuille de route de la DINSIC, marquée par le retour des grands projets informatiques, par la rédaction.
Donc DINSIC, c'est encore une administration assez forte, qui travaille sur les différents ministères, les différentes administrations, pour mettre en avant des logiciels, et notamment des logiciels libres. Quand on entend ce genre de mise en chantier, ça nous intéresse. Et on essaye de suivre un petit peu. Donc on va voir s'ils en sortent quelque chose d'autre. Bon, référentiel de général d'interopérabilité, par exemple, ça fait partie de ce genre de choses qui peuvent ressortir.
Développer.com, les développeurs du projet GNU s'opposent au maintien du leadership de Richard M. Stallman, par Stan Atkins.
Donc il y a du mouvement encore dans l'associatif et dans les projets libres. Donc là, c'est une branche, donc la branche du projet GNU, qui travaillait souvent avec la Free Software Foundation, la FSF.
Ils sont complètement liés.
Oui, carrément. Notamment, ils ont été fondés par Richard Stallman dans les deux cas. Donc Richard Stallman a abandonné son poste à la FSF, mais il poursuit au sein du projet GNU, qui est un projet d'informaticien et d'informatique. C'est du développement pur et dur. Mais il y a 27 personnes qui ont dit non, c'est pas normal qu'il continue son rôle de leader. On ne veut plus de lui. Donc la remarque, c'est de dire que dans son projet où il y a beaucoup de développeurs, c'est pas tant que ça. Ça fait quand même un petit peu bizarre. Et lui, non, il continue. Il a encore son poste de dirigeant.
Et le dernier article, Siècle Digital, France, la reconnaissance faciale bientôt imposée pour accéder aux services publics, par Geneviève Fournier.
Et ce sera notre sujet de la semaine. Donc ça fait un peu de bruit quand même, cette histoire de reconnaissance faciale. Donc cette initiative, c'est quoi ?
C'est pour permettre de se connecter aux différents services de l'État en utilisant son visage, plutôt qu'en utilisant une clé, un mot de passe ou des cartes à puce.
Voilà, c'est pour se faire une identité numérique vis-à-vis de l'État. Et donc, c'est obligatoire d'avoir une reconnaissance faciale. Donc, il faut avoir un téléphone ou une tablette avec une caméra. et on n'a pas le choix. C'est impératif si on veut tenir cette identité. Donc c'est pour les gens qui ont notamment des passeports biométriques ou des choses comme ça. Il faut passer par cette étape.
Alors, ils mettent en avant le fait que ce ne sera pas une nécessité pour l'instant. C'est une application qui s'appelle Alicem.
Alors, ce n'est pas une nécessité de le faire. Tu n'es pas obligé d'avoir ton identité numérique. Mais si tu veux ton identité numérique, tu es obligé de faire de la reconnaissance faciale.
Ah oui, 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 tout à fait. Et donc là, on va encore pouvoir passer par autre chose, par d'autres chemins en attendant que éventuellement ça s'impose. Mais ça fait un petit peu mal parce que la reconnaissance faciale, c'est un outil qui peut emporter avec lui beaucoup de problèmes. Problèmes sur la vie privée, problèmes d'erreurs dont on va parler. Ça peut être inquiétant quand même.
Et on pense à la Chine et notamment à Hong Kong. Et où on sait que la reconnaissance faciale couplée avec la vidéosurveillance, etc., est extrêmement utilisée. Et donc, les manifestants en Chine utilisent leurs parapluies, mettent des masques pour pas qu'on puisse les reconnaître. Voilà, on voit qu'il peut y avoir plein d'applications de ce type-là.
Alors, Alicem, c'est l'application qui s'appelle Authentification en ligne certifiée sur mobile. Donc, ça veut dire qu'on les trouvera sûrement sur les Play Store et les Apple Store.
Pour le moment, c'est que Google. Ouais.
Voilà, mais peut-être pas sur les stores que nous, on utilise.
Absolument pas.
Voilà, et ça passera par une plateforme qui s'appelle France Connect, qui donnera accès à plus de 500 services publics.
Alors, elle existe déjà, hein, cette plateforme. Oui. On est dessus pour différents services. Elle est plutôt pratique. Elle permet de faire du SSO, enfin une sorte de pseudo SSO, donc une sorte d'authentification centrale.
On se connecte une fois, ce que proposent déjà les GAFAM. Hein, puisque,
largement.
Ce truc-là, c'est juste une application de la reconnaissance faciale. Le décret a été attaqué par la Quadrature du Net et la CNIL a réagi assez négativement en disant que ça n'est pas compatible avec le RGPD.
Qui, lui, couvre justement les problématiques d'accès aux données utilisateurs aux données des citoyens et qui les protège face aux administrations ou aux entreprises.
Et dont un des principes, c'est de dire on doit donner son accord, on doit donner son accord explicite et savoir ce qui va être fait avec les données. Et on n'a pas le choix, puisque là, c'est obligatoire si on veut avoir ce système d'identité numérique.
On peut parler de la reconnaissance faciale comme technologie. C'est quelque chose qui apparaît depuis quelques années, dont on parle aux côtés de l'intelligence artificielle, parce que c'est souvent en lien. Il faut beaucoup de statistiques, beaucoup d'algorithmes très complexes pour faire de la reconnaissance visuelle, de la reconnaissance graphique. Et malheureusement, ça marche mal en général.
Alors, on parle beaucoup de quand ça marche bien. On peut peut-être commencer par là. Parce qu'on dit, voilà, on peut reconnaître les gens avec leurs lunettes. Il y a même des trucs où on arrive à reconnaître les gens de dos, avec des différences d'âge, des tas de choses comme
avec
ça.
Avec la barbe, sans la barbe, bronzé, pas bronzé, avec une casquette, sans casquette.
Exactement. Mais c'est une problématique qui est récurrente dans tous ces systèmes dits intelligents, etc. C'est qu'ils peuvent être très performants sur certaines choses, qu'on va en général mettre en avant. Mais souvent, on tait le moment où ils se plantent lamentablement. Et ça, c'est quelque chose que tous ces systèmes font, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun bon sens. C'est le truc que souvent on a du mal à imaginer, c'est que ça peut être très performant, mais ça n'a aucun bon sens. Et donc, de temps en temps, ça va se prendre les pieds dans le tapis, mais de façon magistrale. Et ça va foncer droit dans le mur sur une erreur qu'un humain ne ferait pas.
Ce genre d'outil a été utilisé, par exemple, pour de la conduite automatique, pour reconnaître les humains qui traversent la route. Et en fait, juste un simple ballon avec un smiley dessiné dessus faisait que le système prenait ce ballon pour un humain et allait potentiellement générer un accident.
Oui, j'ai vu là récemment, il y a une association américaine qui a pris toutes les bagnoles avec des systèmes de freinage automatique du marché, les principales, et ils ont mis un mannequin sur roulette et ils l'ont fait traverser devant les voitures. Le mannequin s'est fait exploser dans quasi 40 ou 50% des cas. Et dès lors qu'il commençait à plus y avoir de lumière et tout, on montait à 60, 75. Et en fait, c'est un carnage. Donc voilà, ça peut même très mal marcher. Sur la reconnaissance faciale, on a eu pas mal de cas qui disaient que notamment en fonction du génotype des gens...
Le géno quoi ?
Voilà, savoir... aux États-Unis notamment, les Noirs sont mal reconnus, donc les gens sont confondus. Ou les Asiatiques, pareil, même problème.
Alors, et tu sais d'où ça vient ?
C'est qu'aux États-Unis, ils vont travailler avec des bases de données puisqu'on doit prendre des tas de visages pour faire apprendre au système. Et puis, dans leurs bases de données, ils ont plein de photos de gens qui sont blancs.
Et donc, puis, souvent, les développeurs sont blancs et doivent utiliser les outils sur eux-mêmes.
Et c'est probable, oui. En Chine, on suppose que leurs systèmes sont vachement efficaces pour reconnaître les Asiatiques. Donc, en fait, effectivement, ça ne marche pas toujours. Il y a ce qu'on appelle les faux positifs. Donc, le faux positif, c'est en disant oui, c'était bien Manu. Donc, le système va faire ça. Et moi, ce qui me semble intéressant là-dedans, c'est qu'en gros, à chaque époque, on a toujours un peu un oracle auquel on va croire en disant oui, c'est ce truc-là, ça nous donne la vérité.
On vient d'avoir le cas ce week-end avec de Ligonnès qui aurait été reconnu grâce à des empreintes digitales. Voilà. Et les empreintes digitales, à une époque, ça faisait foi, c'était la garantie que l'identité était bien reconnue.
Moi, je préférais quand c'était la graphologie.
Par exemple.
Oui, ou le calcul de la taille du cerveau aussi.
Oui, ça, c'est un petit peu avant, c'était bien aussi.
Phrénologie.
Ouais. Et donc, du coup, on a toujours ce risque-là, avec des systèmes qui vont être plus ou moins performants, mais il suffit qu'on y croit pour que ce soit vrai, en fait. Et ça, c'est assez inquiétant.
Sachant que là, sur les empreintes digitales, elles étaient bien reconnues, mais partiellement, parce que c'est jamais à 100%, même quand c'est la même personne qui essaie de faire reconnaître ses empreintes. Avec l'ADN, on a quelque chose de beaucoup plus précis, mais ce n'est pas non plus garanti à 100%.
Non, d'autant plus, j'avais lu un article il y a quelques années qui disait que dans les labos qui font les études d'ADN pour la police, bah, ils essayent de tirer les coûts au minimum.
On peut supposer que la reconnaissance faciale, du même ordre que ces autres technologies, se base sur certaines données et on puisse avoir des faux positifs assez facilement. Je sais qu'ils vont regarder la distance entre les yeux, par exemple. Oui. Bah, la distance entre les yeux, je suppose qu'il y a plein d'humains qui ont la même. Donc, parmi les données qu'on va remonter, celle-ci n'est pas discriminante complètement.
Alors, tu sais que, comme j'aime bien le dire, il n'y a pas d'homme moyen. Et donc, tu prends quelques critères, même 3 ou 4 critères, tu arrives déjà à identifier les gens de façon très efficace.
Mais tu as toujours le risque de quand même tomber sur quelqu'un qui est le semblable, le jumeau, le sosie de cette personne sur ses caractéristiques.
Le système, en plus, ça, il peut se planter parce que la mesure, elle n'est pas parfaite. La caméra, elle n'est pas nécessairement de bonne qualité. La lumière n'est pas nécessairement bonne. Enfin, il peut se passer plein de choses.
Alors, en général, d'un point de vue technique, on est content quand ce genre de système fonctionne à 99%. Et 99%, dans la plupart des cas, on est heureux, c'est vraiment une grosse réussite.
Oui, mais 1% sur la population française, c'est beaucoup, non ?
Ben, ça commence à devenir beaucoup. Et si de ces 1% va en découler, par exemple, une garde à vue, eh ben, on peut supposer qu'il va y avoir beaucoup de traumatismes qui peuvent être générés par tout ça.
Alors pour le moment, sur toutes les expérimentations qui sont faites en France, on n'est pas sur l'ensemble de la population. Donc ce système à l'ISEM, c'est un truc, mais il y a plein d'autres expérimentations qui ont été faites en France avec la reconnaissance faciale, qui sont en général des trucs a posteriori sur des images qui sont enregistrées par des caméras. Donc il y a notamment quelqu'un qui a volé un camion récemment qui a été repéré par ce système-là. Donc dans la base des délinquants, on a repris les vidéos et on a utilisé ça pour retrouver la personne. Il y a pas mal d'éléments. Derrière, ça pousse beaucoup parce que les industriels disent « c'est la techno de demain, il ne faut pas qu'on prenne de retard dessus ». Donc on veut la reconnaissance faciale pour pouvoir avoir des marchés, pour pouvoir déployer le truc et pas être dépendant des États-Unis. Et donc, en fait, il y a cette espèce de mélange et en disant « oui, mais bon, vous allez voir, avec les Jeux Olympiques, la reconnaissance faciale, tout le monde va trouver ça sympa ». Mais effectivement, c'est problématique.
Sachant qu'il est question de l'utiliser dans beaucoup, beaucoup de contextes. Hein, donc là, c'est la sécurité, mais on peut aussi en parler commercialement. Rentrer dans un magasin, être reconnu automatiquement à l'entrée du magasin, ça fait partie des choses qui pourraient être utilisées. Aller mettre de l'essence dans sa voiture et ne plus avoir à sortir sa carte bleue parce que la machine vous a reconnu et elle sait que c'est vous et elle va débiter votre compte parce que vous étiez déjà inscrit. Ça fait partie des usages qu'on peut envisager à assez court terme.
Ça veut dire qu'on risque d'être débité pour des achats qu'on n'a pas effectués.
Alors, si justement, il y a 1% d'erreur, bah oui, par exemple, ça peut arriver bah, dans 1% des cas.
Et donc, on peut aussi imaginer qu'on puisse truquer ces vidéos. Il y a les deepfakes qui vont être de plus en plus faciles à faire avec le temps. Hein. On peut être certain que d'ici quelques années, probablement moins de 5 ans,
on pourra projeter tous nos visages dans des circonstances choisies.
Voilà, et dès lors qu'il y a de la vidéosurveillance de partout, les gens ont leurs caméras un peu partout, etc., on pourra imaginer que n'importe qui puissent truquer des vidéos et piéger des gens en disant, bah voilà, il y a une...
Des entreprises, des gens qui nous veulent du mal, il y a vraiment tous les cas possibles et imaginables.
Et de la même façon, on a aujourd'hui, et depuis la Seconde Guerre mondiale, pas le droit de faire des statistiques sur les races, par exemple. Or, on pourrait imaginer assez facilement, avec une base de données très complète, passer à l'algorithme et pour faire nos statistiques finalement assez rapidement en étudiant des banques d'images ou des banques de vidéosurveillance, des choses comme ça.
Il y a de gros potentiels dans un sens ou dans un autre, donc des potentiels qui, moi, me paraissent intéressants techniquement, mais effectivement, il y a de gros potentiels pour des dérapages, et c'est ça qu'on voudrait éviter. J'espère que la Quadrature, ils vont bien avancer sur le sujet, et ils vont bien se battre pour défendre nos libertés.
Très bien. Eh bien, merci. On se retrouve la semaine prochaine.
Salut.
À la semaine prochaine.